Chez nous, d'abord, quand on est jeune, on se fait une case ronde. Mmh. Ce qui signifie qu'on est célibataire, donc on reste dans une petite maison pour pouvoir vivre. Et lorsque l'on envisage se marier, alors on se fait construire une maison rectangulaire pour pouvoir vivre avec la femme et les enfants. Et de l'autre côté, il y a une maison en forme de 8 où la grand-mère vit. Et la maison mère, elle est la gardienne de certains trésors de la famille et certains fétiches de la famille.
Mais est-ce que ça veut dire que l'espace s'est organisé autour de cette maison mère?
Obligatoirement, parce que c'est la toute première maison construite. Donc toutes les maisons se mettent autour de cette maison.
Dans l'actualité des idées aujourd'hui, si habiter fait partie de la condition de l'homme, qu'est-ce que les habitats disent de nous, de nos modes de vie et au-delà de notre rapport au monde? Auteur déjà de Droit de cité et du choc des métropoles, Philippe Simet a voyagé pendant 4 ans des montagnes iraniennes à la jungle indonésienne, des patios de Grenade au village en bambou indien. Il a quitté le bitume, les bibliothèques et l'amphi de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville où il enseigne pour entrer chez les gens et appréhender concrètement nos manières de vivre. Habiter le monde est donc le titre de l'ouvrage qui paraît aujourd'hui chez Actes Sud en coédition avec Arte, mais aussi celui d'une série documentaire diffusée sur la chaîne franco-allemande. Bonjour à vous Philippe Simet.
Bonjour.
Un mot d'abord de ce studio rond et pas rectangulaire dans lequel nous allons habiter pour une demi-heure ensemble, qui garde aussi nos trésors radiophoniques, ceux des voix, ceux des invités qui passent par là et de toute leur science qu'ils partagent avec nous. Comment vous trouvez qu'on a organisé l'espace ici? Qu'est-ce que ça dit de nous?
Moi j'aime plutôt bien. Cet espace du studio, il renvoie à la fois à l'intime, à l'intimité de la parole, au partage de la parole, et en même temps, bon, il est innervé de câbles, de réseaux électriques, de réseaux numériques qui indiquent sa vocation radiophonique.
Et l'originalité de la moquette, quand même, sur la table.
Oui, alors c'est moins bien, ça.
Ça, c'est une inversion des sens. Bienvenue à vous pour nous parler donc de ces habitats du monde. Vous en avez beaucoup parcouru des kilomètres à la rencontre donc de ces demeures et de ceux qui les ont investis. Depuis ce premier départ, est-ce que vous êtes un autre homme? Comment le voyage vous a-t-il fait ou défait, pour reprendre le mot de Nicolas Bouvier?
Le voyage m'a beaucoup changé, parce que moi je suis un universitaire plutôt rat de bibliothèque. Et c'est vrai que j'avais envie de partager mon amour pour l'architecture, pour les habitats, pour la diversité des habitats et des manières d'habiter. À un moment peut-être où cette diversité tend à disparaître sous des formes d'homogénéisation des modes de production architecturaux contemporains aux quatre coins du monde. Donc j'avais envie de défendre cette diversité qui pour moi a une valeur intrinsèque. Et puis en même temps, j'avais envie de me mettre à l'épreuve des espaces, parce que je pense qu'on ne philosophe pas qu'avec sa tête, on philosophe aussi avec son corps, avec ses sens, et que c'est dans la confrontation et la rencontre que les choses se révèlent.
Vous avez trouvé votre coin de paradis ?
Non, j'ai pas trouvé mon coin de paradis. Je crois que je ne le cherche pas. Je cherche plutôt à expérimenter, à traverser, à être traversé par les espaces et par les personnes que je vais rencontrer, côtoyer, avec qui je vais discuter. C'est ce qui me plaît.
Après l'étude des métropoles, de ces grandes cités à la fois vivantes mais aussi pensées par beaucoup, vous pratiquez donc ici un changement d'échelle en allant dans les villes ou aussi dans des paysages et des territoires beaucoup moins habités. Vous êtes notamment rendu à Hanoï avec ces maisons tubes que vous avez observées, version urbaine d'une tradition ou d'une maison traditionnelle vietnamienne où le chaos vous a semblé plutôt bien organisé. Ici, l'habitat semble s'adapter à la surpopulation des villes, plus de 7 millions d'habitants, c'est ça, à Hanoï. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette organisation de l'espace, sa plasticité, la capacité de tous ces habitats à s'adapter aussi à l'environnement même le plus dense, qui semble le plus restreint?
Oui, ça c'est un des aspects qui m'intéresse beaucoup, parce que j'aime la culture métropolitaine, donc j'aime cet univers de la congestion, du côtoiement ou du grouillement, ça dépend comment on veut voir les choses. Mais là, ce que je voulais montrer dans ces maisons tubes, c'est que habiter, ça consiste toujours à s'adapter à son environnement. Ça peut être un environnement géographique, ça peut être un environnement climatique, mais là, en fait, ces maisons qui se sont constituées tout en longueur, elles ont une largeur très très restreinte, et puis elles se développent en cœur d'îlots, tout en profondeur dans les îlots, parce que au départ, il y avait une taxe sur la largeur des façades. Donc les gens, pour pas payer de taxes, en fait, ils ont construit comme ça en profondeur. Donc là, les habitats se sont adaptés à un contexte législatif. Ça, c'est très étonnant.
Et pas seulement, nos façons d'habiter tiennent aussi à l'histoire des formes urbaines. Hein, ce que vous rappelez, Philippe Simet, on peut le voir d'ailleurs tout bêtement ici, à Paris, avec nos quartiers haussmanniens. On n'aurait pas idée aujourd'hui de raser ces quartiers et ces immeubles pour gagner en densité. Donc la tradition a toujours sa place aussi dans ces espaces modernes.
Oui, même les espaces des grandes métropoles ont une histoire, et souvent une histoire longue. C'est le cas de Paris, et ce qui est réjouissant, c'est de voir finalement la plasticité ou la durabilité de la typologie haussmannienne qui a réussi quand même à traverser les époques et à rester pertinente aujourd'hui. On est à Paris, dans une des villes les plus denses du monde, et c'est important de défendre cette densité et cette congestion dont je parlais tout à l'heure par rapport au phénomène d'étalement urbain qu'on trouve déjà autour de Paris, puis un peu partout en Europe et en Amérique du Nord, et qui est absolument destructeur pour les territoires et pour les écosystèmes.
Alors vous, l'architecte philosophe, ou plutôt le philosophe architecte, quelle différence vous faites entre se loger et habiter ? Qu'est-ce que vous mettez dans ce mot ?
Se loger, c'est se trouver dans un logement. Et habiter, c'est quelque chose qui est bien plus large et bien plus riche. Une des choses que j'avais envie de montrer avec cette série de documentaires, puis avec le film, c'est que dans le fond, habiter, ça ne se passe même pas à l'intérieur forcément d'un habitat. C'est-à-dire que pour nous, habiter, ça renvoie vraiment à la maison, ça renvoie vraiment à l'univers de l'intime. Mais dans beaucoup de sociétés, finalement, dès qu'on interroge les gens sur qu'est-ce que ça veut dire pour eux habiter, ils vont vous parler de la relation au climat, ils vont vous parler de la relation aux autres, ils vont vous parler des matériaux, des techniques de construction. C'est davantage tourné vers le dehors. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui nous manque beaucoup.
Donc on peut habiter dans le plus grand minimalisme ou dans le plus grand dénuement. Et pour ce faire, on va commencer par se rendre avec vous à Kyoto, au Japon, où c'est la ruée touristique en ce moment. C'est une ville qui attire énormément de monde, ancienne capitale impériale du Japon. Vous êtes entré dans ces maisons, dans ces espaces modulables, aux intérieurs tout dépouillés.
Les machias sont le produit du savoir-faire accumulé par les charpentiers du passé. C'est la quintessence de la culture japonaise. Je me suis dit, si un jour j'ai ma propre maison, j'aimerais bien vivre dans un tel bâtiment. Il y a des gens qui disent qu'une machia n'est pas très confortable. Mais j'adore découvrir au quotidien la sagesse et les astuces inventées par nos ancêtres. Grâce à cela, je trouve que la machia est très agréable à habiter.
Mais est-ce que vous pensez que ces maisons très anciennes sont adaptées à un mode de vie contemporain ?
En fait, c'est une habitation très flexible, facile à transformer. Dans ce sens, elle est tout à fait adaptée au mode de vie contemporain. La base de l'architecture japonaise est très simple. Il y a des piliers et des poutres, mais il n'y a pas de mur. En quelque sorte, le bâtiment et la nature sont connectés dans l'espace. Le design japonais est très simple et minimaliste. On enlève tous les décors superflus et on se contente d'une seule belle fleur pour décorer un espace. C'est ça l'esthétique japonaise.
Qu'est-ce qu'on appelle exactement les machias ?
Les machias, c'est des anciennes maisons qui étaient liées à des boutiques qui ont demeuré, enfin qu'on trouve principalement à Kyoto. Et voilà, qui sont très belles, avec des panneaux coulissants, voilà, et souvent un petit jardin aussi intérieur.
Qu'est-ce qui vous a frappé là-bas ?
Ce que j'avais envie de montrer, c'est l'attention qui est portée à l'habitat et à tous les aspects de l'habité, c'est-à-dire une attention aux matériaux, à la disposition des espaces, mais aussi aux gestes, finalement, de la domesticité, s'agenouiller, voilà, enlever ses chaussures, montrer que, dans le fond, il y avait une attention pour tous les aspects de la maison. Et ça, je crois, ça aussi, c'est quelque chose qui nous manque, c'est-à-dire le soin que nous apportons à notre environnement. Et ce que j'aime au Japon, c'est que tous les gestes ont un sens. Et toutes les choses ont un sens. Donc je crois que si nous ne prenons pas soin de nos maisons, comment les maisons pourraient-elles prendre soin de nous ? Donc ça, c'est une source d'enseignement, je crois.
C'est-à-dire qu'on n'investit pas simplement un espace pour le remplir aussi. C'est ce que nous montrent ces maisons japonaises. Quelles sont généralement les motivations de l'homme, avec un grand H, hein, pour habiter ces espaces ? Qu'est-ce qui nous pousse à nous approprier ces petits bouts de monde?
Mais on a besoin, enfin, c'est ce que vous disiez à l'instant, on a besoin de s'approprier les espaces pour les faire siens, pour y trouver sa place. Et donc, ça passe par des actions, souvent, de transformation du milieu dans lequel on vient s'inscrire. Et dans le fond, quand on regarde l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'hominisation des espaces. On n'a jamais cessé, nous, les êtres humains, de transformer ces espaces pour y trouver notre place. Mais je crois qu'on est arrivé aussi un peu au bout de cette logique. À force de transformer les espaces, on les a rendus invivables, on a détruit les écosystèmes. Et donc, une des idées que j'essaye de défendre, c'est qu'aujourd'hui, habiter, c'est moins revendiquer une place comme étant la sienne qu'apprendre à partager l'espace. Que de donner une place aux autres.
Ce qu'on voit avec ces machias japonaises, hein, l'idée aussi de faire entrer la nature dans l'habitat et de ne pas construire contre, en fait.
Oui, de pas penser la ville contre nature, mais de penser une ville qui accueille la nature, qui est attentive au rythme des saisons. Voilà, je crois qu'on a besoin aussi de penser une architecture qui est attentive aux autres et qui produit une ville de l'hospitalité.
Mais sortir de cette vision un peu anthropocentrique qu'on peut avoir aujourd'hui du monde et de l'habitat, cette idée de repenser cette notion de partage de l'espace avec tout ce qui nous entoure, notamment les autres espèces animales et végétales avec cet environnement. Est-ce que c'est foncièrement si nouveau ? C'est-à-dire qu'on le voit aussi à travers des habitats et des pratiques plus ancestrales, il y avait déjà ce souci de la nature dans laquelle on s'inscrivait, non ?
Oui, c'est ce que j'ai vu dans des sociétés extrêmement différentes. Je suis allé dans l'Arunachal Pradesh, au nord-est de l'Inde, où là, les hommes vivent en autarcie dans des montagnes et ont simplement le bambou comme unique ressource. Je suis allé sur le lac Titicaca voir des Indiens qui habitent sur des îles fabriquées en joncs. Ils n'ont que cette ressource aussi, dans des endroits où voilà, on utilise principalement le bois. Ce que je trouve frappant, c'est que finalement, c'est dans ces lieux où la nature est la moins prodigue qu'on la respecte le plus, qu'on en prend le plus soin. Donc ça, je crois que c'est quelque chose dont nous pouvons nous inspirer, c'est-à-dire ici on est beaucoup dans la culture du risque et dans une logique maintenant on est en train de passer d'une société du risque à une société des catastrophes, et je crois qu'on devrait être dans une société du soin au sens du care tel qu'en parle la philosophe John Tronto, une pensée du prendre soin, voilà, prendre soin finalement de la nature, prendre soin des végétaux qui peuvent être des matériaux de construction tout à fait durables.
Ce que ne font pas tous les pays, ce que ne font pas toutes les sociétés, à commencer, si on prend par des exemples assez extrêmes, par les stades surclimatisés à l'occasion des grandes rencontres sportives, ou les piscines artificielles, ou les montagnes artificielles qui peuvent être créées dans des pays très chauds ou en totale opposition avec l'environnement dans lequel ils s'inscrivent.
Oui, c'était une de mes grandes motivations de départ, parce que je crois que la manière dont nous habitons, nous les Européens, elle est très pauvre, elle est appauvrissante et elle est destructrice des écosystèmes. Elle est destructrice aussi de liens sociaux. Donc comment on peut réinventer notre façon d'habiter en partageant l'espace, en prenant soin en commun des ressources et des autres, c'est un enjeu absolu aujourd'hui, et tout particulièrement en France. Parce que en France, l'industrie du bâtiment est le premier pollueur du pays. Et ça, je crois qu'il y a un déficit de représentation sur la question. On imagine que ce sont d'autres types d'industries, celle des transports par exemple, mais c'est le logement. Se saisir tous ensemble de cette question-là et d'y voir un grand enjeu politique et écologique, ça me paraît être une de nos priorités.
Qu'est-ce que recouvre le concept d'écologie urbaine du sensible, Philippe Simet ?
Écologie urbaine du sensible, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Ça veut dire que si on regarde l'histoire de l'urbanisme, il y a un moment où l'urbanisme était un urbanisme fonctionnaliste. Il fallait résoudre, on était dans la période de la reconstruction, après la guerre, il fallait résoudre des grands problèmes fonctionnels. Mais on a porté finalement assez peu d'intérêt, je crois, aux citadins. Et aux citadins dans sa dimension corporelle et charnelle. Or, je crois que la ville, c'est quelque chose qui s'expérimente avec son corps, avec ses sens, et que le corps, c'est le capital le plus précieux du citadin. Donc comment on peut partir de cette expérience vécue des espaces ordinaires pour penser la façon dont on peut les aménager ? Préserver le corps, ménager le corps, c'est un enjeu fondamental dans la ville contemporaine, aussi parce que on est en train de prendre conscience qu'il n'y a plus d'extériorité. Il y a un moment donné, si on n'aimait pas la ville, on pouvait aller ailleurs. Aujourd'hui, l'humanité, elle est devenue à plus de la moitié urbaine. Et quand on voit l'urbanisation qui est en train de se produire, soit de la bétonisation, soit de la bidonvillisation, on se dit que réintroduire cette culture du sensible et du plaisir à l'intérieur de la ville, c'est vraiment une priorité.
Vous êtes allé d'ailleurs dans les favelas aussi de Rio de Janeiro.
Oui.
Et là, vous y avez trouvé quoi ?
Et j'y ai trouvé beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide, beaucoup d'énergie. C'était la même chose quand je suis allé à Iquitos au Pérou. Là aussi, c'était un autre bidonville. Là, avec des maisons construites sur pilotis. Bon, c'est toujours ce qui m'intéresse. C'est-à-dire,
Parce qu'on a une image des bidonvilles très anarchiques, toujours construits, évidemment, sur le tas, presque pour certains, en dépit du bon sens aussi, par rapport aux conditions environnementales qu'il peut y avoir et les dangers, d'ailleurs, que ça peut provoquer pour ceux qui y habitent. Oui. Mais là, le choix est rarement laissé poser. Vous avez vu des modes d'organisation aussi plus viables ?
Oui, absolument. Il y a bien évidemment des problèmes sanitaires et des problèmes politiques, mais en même temps il y a une prise en charge collective de l'espace qui est extrêmement réjouissante. C'est-à-dire quand on va dans ces endroits-là, on comprend ce que c'est que le droit à la ville, c'est-à-dire le droit à habiter bien, le droit à vivre dans un environnement décent. C'est une préoccupation qui est partagée par l'ensemble des habitants. Donc les formes d'organisation qu'on voit là, elles nous montrent aussi un chemin qui est de se sentir tous concernés par le lieu où on habite, de penser que c'est un bien commun extrêmement précieux dont on doit prendre soin.
Comment vivre et habiter avec son environnement ? Comment vivre et habiter dans un habitat qui respecte aussi la nature alentour ? On va se rendre maintenant en Indonésie, avec ces fameuses maisons patio, ouais. Où vous vous êtes rendu, vous, Philippe Simet.
En rentrant, j'ai vraiment été frappé par la différence de température avec la rue. C'est très impressionnant.
Tout est étudié en quelque sorte pour avoir cet effet. Ici, c'est nécessaire de se protéger du soleil, parce que c'est un four. Alors, avec les arbres et toute la verdure du jardin, on obtient cet effet spécial qu'on recherche pour s'y sentir bien. En général, ces maisons étaient orientées au sud. Alors, pendant l'hiver, le soleil entre dans la maison. En été, comme aujourd'hui, le soleil est plus haut et il n'entre pas.
Ces patios andalous bénéficient du remarquable savoir-faire des Arabes en matière d'architecture bioclimatique qui tire le meilleur parti de l'eau et du soleil.
Je pense que c'est un peu inspiré des patios romains. C'est vrai que les Arabes ont beaucoup apporté. L'eau était très importante pour eux, comme pour les Romains. Mais ici, dans l'Albaïcine, ils ont construit des circuits d'eau fantastiques. À partir d'une source, l'eau rentrait et remplissait une espèce de citerne comme celle que nous avons là. Et ensuite, l'eau descendait dans la maison, puis en dessous, pour faire la même opération dans la maison suivante. Lorsque toute la rue était remplie, elle continuait jusqu'à la rivière. Cela apporte de la fraîcheur et de la vie.
Là, on y est avec vous, être physiquement présent aussi, ressentir cette expérience du sensible que vous évoquiez à l'instant. Là-bas, vous avez retrouvé cela?
Ah oui, c'est un endroit, c'est vraiment magique, Grenade, parce qu'il y a toute cette architecture des patios qui sont une sorte de matérialisation du paradis terrestre. Vous êtes dans la rue, il fait une chaleur absolument étouffante, et puis vous poussez une porte, et là, vous vous retrouvez dans un jardin intérieur, et vous êtes sensible à la qualité de l'ombre et de la lumière, au vent, au bruit de l'eau. Il y a un microclimat et de façon plus générale, il y a un traitement de l'ambiance qui est pris en compte et qui est constitutif de la manière d'habiter.
Et ça, c'est pas nouveau.
Justement, non, c'est pas nouveau. Mmh. C'est pas nouveau, mais c'est des choses qu'on a oubliées.
Qu'on a perdu, même.
C'est des choses qu'on a perdues, que l'architecture moderne nous a fait perdre. Elle nous a apporté beaucoup de choses, mais elle nous a aussi fait perdre beaucoup de choses. Et on a besoin de retrouver ce contact sensible avec les éléments qui nous entourent et qui constituent notre habitat. Donc, pour moi, habiter, c'est un programme de réappropriation. Il y a beaucoup de choses qu'on a perdues, il faut les retrouver, il faut les cultiver à nouveau et il faut les partager.
Il y avait là dans ces quartiers des influences très diverses qui se croisent, à la fois carthaginoises, romaines, arabes, catholiques. Oui. On parle souvent de l'influence mauresque aussi qui prédomine sur les façades et dans ces architectures. Mais vous avez eu le sentiment aussi que la dimension culturelle, voire un peu mystique, religieuse, reste très importante dans la manière dont elle peut aussi imprégner parfois l'architecture.
Oui, la dimension culturelle au sens large, elle est là dans le traitement des façades, elle est là dans ces patios intérieurs dont je disais qu'ils sont une incarnation du paradis terrestre. C'est au cœur de la culture de l'islam. C'est des choses qu'on va retrouver par exemple à Ispahan en Iran. Donc c'est intéressant de voir comment ces imaginaires là se sont à la fois matérialisés, mais dont ils ont circulé géographiquement et historiquement.
Là, on est presque dans de l'habitat feel good, comme on dirait aujourd'hui. Où est-ce que vos sensations ont été mises à rude épreuve durant ces voyages?
Ah, dans pas mal d'endroits, c'était une expérience de sortir de son confort et d'être confronté à des conditions de vie, se loger, dormir, parfois dans des conditions très difficiles. Quand j'étais en Papouasie, j'ai dû faire plusieurs jours de transport en voiture, en bateau, en marche pour me retrouver au milieu d'une forêt, dormir dans un hamac au milieu des moustiques et des bestioles en tout genre. Donc c'était une expérience qui était très forte. Mais je crois que finalement, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est les architectures ou les situations où on est en confrontation avec quelque chose d'autre. Quand je suis allé dans l'Himalaya, je suis allé au Népal, monter tout en haut, là, à 4500 mètres, et d'être confronté à ces montagnes, c'est une relation très directe. Même chose en Islande, on sort de sa maison et on est au milieu d'une nature qui a une certaine forme de violence, et cette confrontation, elle nous oblige aussi à sortir de nous-mêmes et à expérimenter d'autres façons d'être dans l'espace.
Et à penser chacun de nos gestes. Vous racontez aussi avoir été particulièrement marqué par cette rencontre que vous avez pu avoir avec les scientifiques qui sont campés au Spitzberg. C'est aussi de se dire ce que chacun de nos pas, chacun de nos gestes laisse comme empreinte sur l'environnement. Et eux, ils le calculent.
Oui, et ce qui était intéressant, c'était de voir que, quelle que soit leur envie de partager leur expérience et leur vision du monde et leur compréhension de ce que c'était qu'habiter, au pôle Nord, même les enjeux écologiques du tournage étaient questionnés. Donc, d'avoir ce niveau de conscience sur la responsabilité de chacun de ces actes, pour moi, c'était c'était très très important, très rassurant, en me disant que c'était quelque chose que on devrait tous partager. On devrait tous réfléchir à la manière dont on s'inscrit dans l'espace et les conséquences que ça peut avoir.
Alors, parmi les paramètres intégrés à l'habitat par les populations, il y a la relation au vivant qui nous entoure, mais aussi aux morts. On va faire un dernier voyage avec vous, en se rendant au Burkina Faso, avec cet exemple de la cité labyrinthique vue d'en haut de Tiébélé, qui abrite la cour royale des Kassena, une ethnie burkinabé.
Celui-ci représente le tambour du matin qui réveille le chef. Là, ce sont des flèches. Elles rappellent nos différents conflits. Ici, nous avons un épervier pour se souvenir qu'il met en danger nos poules et qu'à tout moment, il peut s'envoler en les emportant.
Et celui-là, là, comme ça, en W ?
C'est la chauve-souris.
Ah, d'accord. Qu'est-ce qui raconte ce symbole de la chauve-souris ?
C'est elle qui nous apporte l'air frais dans la maison et qui nous débarrasse des insectes. Avec ses ailes, elle remplace le ventilateur.
Bah, j'ai l'impression que tous ces symboles, ce sont en quelque sorte des aides-mémoires qui nous rappellent les aspects essentiels de la vie des Kassena.
C'est la mémoire Kassena. Elle nous permet de ne pas oublier qui nous sommes. C'est pour se souvenir. Plusieurs vies sont posées sur ces murs. Si je venais à disparaître, il ne resterait que ces symboles à mes enfants pour se souvenir de moi. Je considère que ce qui est posé sur ce mur, c'est une partie de moi, mais surtout ce que je donne de moi.
Là, on a intégré aussi cette mémoire dans l'habitat, hein, sur les murs de l'habitat, Philippe Simet.
Oui, c'est très émouvant pour moi de réentendre ce passage, au vu de des événements politiques qui se passent maintenant au Burkina. Quand j'ai fait ce tournage, c'était quelques semaines avant les premiers attentats, et c'est un des lieux qui m'a le plus marqué parce que. Ce que j'y ai compris, c'est vraiment la dimension culturelle de l'architecture. Nous, je crois, ici en Europe ou en Amérique du Nord, quand on parle d'architecture, on pense objet. Et on pense pas chantier, on pense pas processus. Or, ce qui est intéressant en Burkina, c'est la dimension collective et la dimension sociale de la fabrication des maisons. C'est un moment qui implique tout le monde, les jeunes, les plus anciens, c'est un moment de transmission des savoir-faire, notamment entre les hommes qui construisent, qui édifient les cases en terre, c'est des modes de terre qui sont posés les unes sur les autres, mais après les femmes prennent le relais et elles dessinent sur les murs de ces cases tout un tas de symboles qui, voilà, on l'a entendu, racontent l'histoire des Kassena, et c'est un grand moment de discussion entre elles, enfin, elles se racontent compte des tas de trucs. C'est un moment de transmission qui est très fort. Voilà. Et ça, je crois que c'est comme ça que j'aimerais voir exister l'architecture, comme un grand moment de transmission.
Avec aussi cette architecture très organique, ce que vous expliquiez tout à l'heure avec les maisons en bambou. Ici, la plupart des maisons sont construites à partir de terre malaxée ou de la paille peut-être ajoutée. C'est à la fois très naturellement très écologique, mais ça crée aussi une relation de l'homme avec son habitat, directement en prise avec cet espace. Et cette relation sociale, on l'entendait dans l'extrait d'ouverture de l'émission qui était aussi tourné là-bas au Burkina Faso avec cette maison mère, gardienne des trésors et des fétiches de la famille, et cette maison symbole du changement social de ses habitants. Hein. On passe du rond au rectangulaire. Quand on change de statut social, on modifie la forme de la maison.
Oui. Les formes ont un sens, et donc la manière dont on construit ces maisons, la manière dont on les habite, la manière dont on va changer à un moment donné dans sa vie d'habitat, tout ça est porteur de sens et nous permet d'être en prise finalement avec l'espace et avec la société dans laquelle on vit. Et je crois que ça, c'est un enjeu fondamental pour nous, c'est-à-dire recréer du concernement. Si on veut que s'opère la transition écologique, alors on peut s'inspirer des casénas. En effet, l'architecture de terre, de paille et de bois, puisque ce sont des matériaux qu'on trouve là. On peut très bien construire comme ça ici, en France. C'est de la construction durable. Voilà, c'est une manière d'être en prise avec l'espace dans lequel on est.
Et comme nos habitats sont à l'image de nos sociétés aujourd'hui, ils sont aussi individualistes à leur manière. Est-ce que vous regrettez ou déplorez d'une certaine manière les expériences qu'on a pu connaître d'habitat collectif, d'habitat communautaire ou partagé? Est-ce qu'il faudrait tendre vers cela?
Ah non, je les regrette pas du tout. Je pense que c'était un moment absolument extraordinaire qui n'est pas fini. Il y a un retour de l'autoconstruction. Il y a un retour des chantiers participatifs en France, un peu partout. Ça montre que les questions architecturales et les questions spatiales sont devenues des préoccupations communes. Et c'est de ça dont on a besoin. C'est-à-dire, tous les jours, on a des informations sur les désastres écologiques et climatiques. Hier, on a parlé des ressources en sable qui s'amenuisent, des problèmes d'eau. Ce matin, on entendait qu'un isolant utilisé en Chine a réouvert le trou dans la couche d'ozone. Donc, plus les gens vont partager cette culture de l'habitat, plus les gens vont réfléchir à ce que ça veut dire habiter, plus on a des chances d'opérer cette transformation, cette transition écologique. On n'a pas besoin de plus d'informations, on a besoin d'actions et d'actions partagées.
Et on voit ça, c'est ce changement climatique, il ne s'opère pas simplement du sud vers le nord avec l'immigration qu'il peut entraîner aujourd'hui. On a vu encore aux États-Unis récemment des études qui ont été menées sur cet exode qui est en train de se jouer là-bas aussi, après les passages des ouragans, de comment se protéger aussi de ça ou apprendre à construire, habiter avec.
Ben oui, comment vivre dans un territoire qui est exposé à des catastrophes récurrentes. C'est des enjeux auxquels on va être tous de plus en plus confrontés. Et c'est pour ça que je disais que pour moi, l'urgence, c'est de passer du paradigme de la catastrophe peut-être au paradigme du prendre soin. Pas simplement être dans une sorte de logique assurantielle qui a caractérisé quand même le capitalisme du XXe siècle, mais d'être dans une forme d'attention aux autres.
Et comme on n'a pas toujours le choix, est-ce que cette logique du care, elle est en train d'infuser aussi les politiques publiques pour vous ? Aujourd'hui en France, vous sentez une sensibilité à ces questions ?
Non, pas du côté des politiques publiques ou alors de façon très embryonnaire, mais du côté de la société civile, oui. Je trouve qu'il y a un réveil sur ces questions-là, il y a un concernement progressif et moi je suis très optimiste sur ce plan-là. Je pense que il y a de plus en plus de réseaux d'acteurs dans la société civile qui s'organisent entre eux, qui se fédèrent pour prendre cette question de la durabilité des territoires au sérieux.
Merci beaucoup à vous,
merci.
Philippe Simet, d'avoir été avec nous. Habiter le monde, votre ouvrage avec plein de très belles photos. Qui les a réalisées d'ailleurs?
C'est les réalisateurs des différents...
De la série documentaire, oui. Qui a été déjà pour sa première saison diffusée sur Arte.
Oui, la deuxième aussi.
Aussi, ouais. Et on peut la retrouver donc en Arte plus 7,
ouais,
on dit,
ou
qui est éternelle maintenant, ou en...
En VOD ou en...
Voilà. On faut qu'on se mette à ce nouveau langage. Merci à vous Philippe Simet, Habiter le Monde, donc édition Actes Sud, Arte édition. Merci d'être venu nous parler de ce voyage et de toutes vos observations. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table culture, avec l'aide précieuse, très précieuse de Mathilde Tonfourcade et d'Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, c'était Anna Holweck avec Anthony Thomasson. Je vous souhaite un très bel après-midi sur France Culture et un bon week-end. Et je vous retrouve aussi dimanche à partir de 20h pour une soirée électorale spéciale en direct de Lyon en partenariat avec nos camarades des Assises du Roman. On se retrouvera donc là-bas à partir de 20h jusqu'à 22h.